Nous avons l'immense chance de pouvoir enregistrer en public chez nos amis de la Compagnie du Code, donc dans leur local la Place du Code, rue Matabio. Nos amis de l'association de rétrocomputing Silicium ont désigné un membre pour nous parler du langage basique. Le choix fut fait par tirage au sort avec la fameuse fonction RAND. Nous sommes donc avec Benoît Triquet, spécialiste de la programmation temps réel dans l'embarqué pour l'aéronautique, membre de l'association Silicium, et sélectionné au hasard pour me répondre. Oh, coquin de sort. Et ceci est la deuxième partie de l'interview axée sur le langage basique. La première partie a été diffusée la semaine dernière. CPU carré petit utile. Je me souviens que j'avais acheté un manuel basique avant mon premier ordinateur, là, le petit Sanyo là, que j'ai ici, et le langage n'était même pas le même selon les bécanes. Et pourtant marqué sur le livre, ANSI basique. Mais il n'y a pas un organisme de normalisation derrière ?
Le basique a été normalisé tardivement, à partir de 78, par l'ANSI, l'American National Standards Institute. Il y a eu ensuite une standardisation plus poussée dans les années 80 par l'I3E. Au passage, quand tu vois la tronche de ces standards, complexes, volumineux, tu te dis qu'on n'est plus tout à fait dans l'esprit du langage pour petites machines et facile à apprendre. Autrement dit, ça n'a aucun intérêt, ces standards. Et de toute façon, tout ça s'est arrivé très tard.
Microsoft s'en fiche, ils étaient déjà
standard. Microsoft avait déjà implémenté et donc défini le standard. C'est pour ça qu'on disait toujours le Microsoft basique, par opposition à tous les autres basiques. Et la situation que tu as eue avec ton bouquin par rapport à ton ordinateur où rien correspondait, ben, j'ai vécu la même chose quand j'ai eu mon premier abonnement à Tilt Micro. C'était Tilt Micro Loisir.
Oui. Le premier note de ce magazine.
Magazine français. Ouais. Dans lequel il y avait des listings. Et ouais, les listings, ils se ressemblaient pas tous.
Il y avait pas que des chroniques de jeux, c'est vrai, ouais.
Et je comprenais pas au début pourquoi. Et puis, bah, comme toi, j'ai appris dans la douleur parce que quand j'ai eu un micro-ordinateur, mon premier, qui est un Atari ST, il y avait un basique dedans, le ST basique. Puis j'essayais de taper les listings qu'il y avait dans un magazine consacré à l'Atari, le GFA basique. Et puis, ça collait pas, quoi. Les listings GFA, ça faisait des erreurs. Et moi, j'étais tout seul à la campagne. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que l'Atari venait avec un ST basique tout pourri et qu'il était tellement pourri qu'il y avait un bien meilleur GFA basique dont on parlera tout à l'heure. Et c'était pas pareil, il fallait l'avoir, le GFA. Ces langages étaient tous incompatibles entre eux.
En soit, ce basique, comme on a dit dans la première émission, voilà, c'était prévu pour du télétype. On avait vraiment un mode terminal et là-dessus, voilà, on a du print, du input, ça reste relativement standard. Mais sur les fonctions graphiques, il n'y avait absolument plus rien de compatible entre les machines. Quoi.
Et c'est... même pour accéder à un fichier, c'était déjà pas standard. Après, quand tu avais que des cassettes, les fichiers, tu t'en fichais un peu. Donc ouais, malheureusement, les opérations graphiques, c'était pas standard. Et alors, tu retrouvais, par exemple, plot quand c'était pas P7, comme Pixel 7. Line, quand même, c'était à peu près tout le monde qui appelait sa commande pour tracer une ligne line. Mais tu avais des différences sur comment présenter les opérandes dans certaines implémentations. C'était juste les coordonnées séparées par des virgules, mais va savoir pourquoi, chez Microsoft, sans doute pour faire un peu mathématique, c'était parenthèse ouvrante, x, virgule y, parenthèse fermante, tiré, parenthèse ouvrante, x, virgule y, du deuxième point, parenthèse fermante. J'avais ça sur le basique des Thomson, qui était un Microsoft basique.
Je crois qu'il y a eu des basiques aussi sur les consoles deuxième génération, comme celle des Atari, trucs comme ça, si je me souviens bien d'ailleurs carrément, c'est tu rentrais pas print, tu avais juste... une commande print à rentrer, t'avais une vingtaine d'instructions, des trucs comme ça, quoi.
Ils ont fait un basique, même pour l'Atari 2600, il y en a eu un, alors c'est une immonde arnaque, évidemment. C'était pour vendre du logiciel éducatif, hein, sans doute pour arnaquer les parents en leur extorquant le prix d'un jeu vidéo. C'était tellement limité, vu le peu de mémoire qu'il y avait dans une console, par principe, hein, puisque le programme, le jeu d'une console, il est sur une cartouche de ROM, il n'y a pas besoin de RAM dans une console. Donc, programmer sur ça, ça n'avait aucun sens.
Ça, je veux bien croire. On va parler un petit peu des implémentations un peu spéciales du BASIC, mais on va parler parce que c'est une machine qui tient très fortement à cœur à Solarus, qui n'a pas préparé ses sujets d'émission à temps pour cette rentrée. Allez, plus vite, Ice! Mais surtout, une machine qui avait très bien marché en France, c'est le CPC Amstrad, enfin la gamme CPC Amstrad, qui est un BASIC dit BASIC Locomotive. Alors en fait, c'était quoi le truc du BASIC Locomotive? Ils l'avaient codé eux-mêmes ou ils avaient repompé un autre basique ou un truc comme
ça? Non, ils ont acheté un autre basique. Alors, je sais plus qui est l'éditeur original. Non, je veux dire, sur quelle machine ils avaient fait ça au départ, Locomotive? C'était d'autres machines anglaises. Donc, c'était Locomotive Software qui avait écrit ce Locomotive Basic et chez Amstrad, et il leur a fallu, comme toujours chez Amstrad, ils concevaient très vite en essayant de faire pas trop cher pour faire un produit qui plairait. Donc, intéressant techniquement, mais surtout très low cost en termes de fabrication. Donc, ils ont acheté une implémentation auprès de quelqu'un qui avait déjà une implémentation pour Z80. Et ils ont juste eu à adapter les commandes graphiques et son au circuit de l'Amstrad CPC, qui était pas mal équipé. C'est pas si ridicule, l'Amstrad CPC. Il y a une bonne puce audio, il y a des couleurs. Et le basique est
du même niveau. Si je me souviens bien, la puce audio, c'était du Yamaha, c'était la même que l'Atari ST.
C'est du Yamaha 2149, comme l'Atari ST, effectivement.
Et effectivement, l'affichage vidéo était loin d'être pourri. Et le basique donnait directement accès. Il n'y avait même pas besoin de faire des piques et des pauses.
Alors, non seulement tu avais une jolie image grâce à la sortie RGB, par vidéo composite avec des couleurs toutes baveuses, mais en plus le basique avait été correctement adapté à cette machine-là, pas façon Commodore sur le Commodore 64 où il fallait faire des pics et des pocs pour pouvoir afficher un pixel. Dans le Locomotive basique, il y avait toutes les commandes qui allaient bien pour afficher des formes géométriques, donc programmer le circuit son sans là encore avoir besoin de faire des pics et des pocs. Et il y avait également de quoi faire de l'événementiel. Il y avait des commandes.
Ça, je m'en souvenais plus.
Alors, il y a des commandes qui s'appellent Every et After, qui sont un peu dans le même style que dans d'autres basiques. On retrouve le côté où il y a rien qui correspond à basique à l'autre. Dans d'autres basiques, c'était le on. Oui. On quelque chose go to ou on quelque chose go sub. Alors, t'avais par exemple on error quand tu as une erreur d'exécution ailleurs, mais tu pouvais aussi avoir on timer. Et donc, le every, c'était ça. Tu faisais every une certaine période. Go sub, la procédure à exécuter. Et ça te permettait de faire quelque chose qui s'entrelaçait avec le reste de l'exécution du programme. Alors, les instructions élémentaires s'interrompent pas les unes les autres. Si tu lances une longue opération comme tracer un grand polygone, ça va quand même fausser un peu les timings. Mais moyennant quoi, tu peux faire ce qu'on appelle une boucle d'événements qui suit une certaine cadence dans tes petits jeux vidéo. Et très facilement, de base dans le basique. C'est ça qui est très intéressant. Une autre caractéristique intéressante du Locomotive, c'est que l'Amstrad CPC, il vient avec un très joli manuel de 300 pages, avec des exemples très didactiques. On trouvait ça aussi sur l'Apple II. Alors, il y avait aussi un manuel avec le Commodore 64 qui explique comment faire certaines choses, mais à coup de pic et de poc. Par contraste, par exemple, Atari ST venait avec un petit fascicule de 20 pages qui expliquait très, très, très sommairement son ST basique. Ça aidait quand même quand t'étais tout seul à la campagne, et que t'avais ton ordinateur et que t'avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Avoir un beau manuel bien pédagogique, c'était quand même très intéressant.
Quand sont apparus les premiers compilateurs de programmes en basique, si je me trompe, c'est Borland qui l'a lancé avec Turbo Basic en 1987.
Non, c'est bien plus ancien que ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que Microsoft en faisait déjà pour les ordinateurs 8-bit dans les années 80. Justement, ils avaient fait un task, The Apple Soft Compiler, pour le Microsoft Basic dit Apple Soft qu'ils avaient fait pour les Apple II. Et ils ont sorti ce compilateur en 81. Donc, c'est bien plus ancien. Et on trouvait aussi des compilateurs sur d'autres ordinateurs 8 bits, par exemple sur les Atari 800. Machine sortie en 1979, l'Atari 800 avec son basic en ROM tout à fait convenable. Et en 85, un certain Allemand du nom de Frank Ostrowski avait fait un compilateur pour ce basic. Donc c'est une cartouche qu'il fallait brancher dans ton Atari 800 et tu pouvais donc sans t'embêter à des temps de chargement de disquettes ou de cassettes profiter de la vitesse d'un compilateur bien avant le Turbo Basic et bien avant les IBM PC.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium pour parler du langage basique. Et nous le faisons en public depuis la place du code, grâce à nos amis de la compagnie du code. Le langage structuré a permis de passer à la programmation événementielle, donc à travailler avec des interfaces fenêtrées ou asynchrones comme des jeux. On a parlé justement un petit peu justement de cette gestion événementielle quand elle est arrivée. En soit, c'était une évolution du langage basique ou c'était une évolution forcée à cause des possibilités des machines?
C'est clairement une évolution forcée pour suivre la nouvelle vague des interfaces graphiques avec boucle d'événements, du Macintosh avec sa toolbox, des Atari ST avec leur interface graphique GEM et pareil sur l'Amiga. Il fallait faire une boucle qui répondait aux événements de l'utilisateur qui cliquait avec sa souris pour déplacer les fenêtres, etc. Et donc le programme était organisé autour de cette boucle, récupérer les événements, répondait aux événements. Ça obligeait à étendre les basiques pour s'interfacer avec le système d'exploitation qui était bien plus sophistiqué qu'à l'époque où le basique en ROM des 8 bits, c'était le système d'exploitation.
Et justement, puisqu'on parlait des basiques spéciaux tout à l'heure avant la coupure musicale, je dirais plutôt d'ailleurs basiques règles avancées. Alors, il faut parler d'un Français, François Lyonnais, qui est l'inventeur du STOS pour le Atari ST, puis ensuite qu'il a porté, qu'il a réécrit d'ailleurs complètement from scratch, l'Amos sur Amiga. Que peut-on dire de ces basiques ?
Bah déjà, comme il l'a écrit entièrement en assembleur, ça m'étonne pas qu'il ait été obligé de le réimplémenter de zéro pour passer de l'Atari à l'Amiga, même si les deux avaient le même processeur. C'était des basiques. Le STOS spécifiquement a ça de très intéressant, qu'il contient lui aussi plein de routines graphiques et sons vachement bien ficelées, y compris de quoi loader directement des sprites qu'on pouvait créer dans un éditeur qui était fourni avec le STOS. Alors un sprite, ou lutin en français, c'est un petit bout d'image qu'on va déplacer. C'est très bien pour faire des jeux en deux dimensions.
Et surtout déplacer sans impacter la mémoire graphique derrière.
Voilà, la mémoire de vidéo de l'ordinateur, c'est juste une information pour chaque pixel. Quand on dessine quelque chose, on écrase, on perd l'information qu'il y avait dessous. Un basique comme le STOS, il aide le programmeur en s'occupant lui-même de ce genre de petits détails. Donc il sauve l'image qu'il y avait en dessous et il la restaure quand on réaffiche le sprite, quand on déplace le sprite, c'est-à-dire qu'on le réaffiche à des coordonnées différentes. Et le STOS avait aussi de quoi littéralement faire défiler tout l'écran. Et avec une bonne efficacité grâce à des implémentations, elles, en code machine.
Ouais. D'ailleurs, il y avait des langages d'animation, mais c'était plus du basique pour le coup. C'était de l'opcode quasiment.
Oui, alors ça aussi, c'est pas une idée nouvelle. Dans l'Apple Soft, déjà, sur l'Apple 2, bien avant encore le STOS, il y avait les shapes. Ce sont juste des séquences d'opérations graphiques qu'on stocke dans quelque chose. Alors ça peut être un tableau, ça peut être une chaîne de caractères, ça dépend du langage. Et ça, en gros, ça permet de préprogrammer une séquence qui ensuite peut être rejouée en une seule opération. De nos jours, on appellerait ça une display.
Ah oui, oui, c'est vrai. Et on pouvait faire des trucs qui étaient assez amusants. Moi, j'étais sur Amiga, donc très Amos. C'est vrai que c'était vraiment amusant. D'ailleurs, je tiens à signaler que François Lyonnais s'est pas arrêté à ça. Il a continué d'ailleurs ses langages et il l'a créé tout récemment. C'était il y a 4-5 ans. Il est en train de refaire une implémentation dans les navigateurs web, qui est un langage payant. Mais c'est plutôt intéressant justement de voir que ça a continué à évoluer de ce côté-là. C'est quelque chose qui est plutôt à regarder. Autre langage qui a fait des ravages sur Atari et Amiga, mais qui est allé bien au-delà finalement hein, du STOS et de l'AMOS, qui était très limité finalement au bassin de population très européen. Le langage qui a aussi existé sur PC, c'est le GFA Basic.
Le GFA Basic, qu'on doit donc à ce petit génie de Frank Ostrowski, malheureusement décédé. Un gars qui vient donc des 8 bits de l'Atari et qui avait donc écrit en 86 sur l'Atari ST, qui était arrivé sur le marché automne 85, un Basic bien plus intéressant que le Basic numéro de ligne d'origine de l'Atari ST, qui était très lent et très 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 limité. Il avait écrit un Basic structuré. C'est-à-dire un basique où on n'est plus obligé de mettre des numéros de ligne. On peut indenter les boucles, les ifs and else, etc. Donc ça rend le code source beaucoup, beaucoup plus lisible. Et accessoirement, son implémentation était très rapide. Toujours pareil, grâce à la tokenisation.
Et d'ailleurs, comme la MOS et le STOS, il y avait un IDE derrière qui était très propre et très, très utilisable.
Un éditeur pleine page qui se mettait de côté pendant que le programme tournait, qui récupérait généralement la main même quand le programme crachait un peu méchamment. Donc, en général, on récupérait son programme, on perdait pas tout. Et le GFA Basic avait reçu ensuite, vite après, un compilateur. Et du coup, il s'était imposé comme le langage de fait sur l'Atari ST. Alors, au moins en France, en Angleterre, en Allemagne, il y a eu d'autres basiques sur Atari ST. Il y a eu le LDW Basic, il y a eu le iSoft Basic des Anglais.
Sur Amiga aussi, il y a eu le Blitz Basic qui était encore plus rapide que le GFA, c'était hallucinant.
Il y a eu l'Omicron Basic, un autre basique allemand qui a fini par être livré par Atari quand ils se sont aperçus que le ST Basic, c'était plus acceptable. Il y a même eu le Basic 1000D, fait par un Français pour faire de l'arithmétique avec 1000 décimales. Donc un basique qui revenait aux sources du langage de traitement numérique, de calcul mathématique.
Et qui du coup n'utilisait pas les fonctions arithmétiques du processeur, mais ils avaient leur propre truc.
Il n'y a pas d'opération en virgule flottante, il n'y a que des calculs sur des entiers. Donc de toute façon, les nombres flottants, tu te les implémentes toi-même dans l'interpréteur. Bah lui, il avait mis beaucoup de décimales.
Je m'attendais à ce qu'il fasse une opération scabreuse. En me disant que tu le mets dans le...
Non.
Mais en tout cas, c'est intéressant parce que GFA Basic, il y a carrément eu des outils professionnels qui ont été écrits dessus. On est allé loin. Quand même.
Le premier GFA...
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le code qui tournait sur Amiga tournait aussi bien sur le ST et inversement, il n'y avait pas d'adaptation à faire.
Il y avait des choses qui changeaient. Alors, le premier GFA, tu avais pas vraiment de couplage avec l'interface graphique de l'Atari, avec le GEM. T'étais obligé, justement, de faire la version moderne d'Epic et d'Epoque. C'était un peu plus moderne que ça, mais c'était à peu près de ce niveau. Mais dans le GFA 3, il y avait des opérations correspondant directement aux opérations que tu aurais mises dans un programme écrit en Pascal ou en C pour t'interfacer avec le GEM. Et ces opérations-là, pour rendre les programmes un peu portables, il les avait réimplémentées quand il a fait le GFA pour Amiga et pour Windows aussi. Donc les OpenW pour Open Window façon GEM, ça, ça marchait. Après, évidemment, si tu faisais d'autres opérations plus bas niveau, plus proche de la machine ou que tu tapais carrément dans des registres d'entrée-sortie à coup de PIC et de POC pour changer la résolution de ton Atari ST, ça, ça va pas marcher sur un Amiga.
Oui, non, ça. On en était loin de ce côté-là. Et d'ailleurs, il y a une machine 1632 dont on n'a pas parlé, avec des basiques spéciaux. Le Mac. Alors, paraît qu'il y a eu une histoire très malheureuse au sein de l'équipe d'Apple sur la conception d'un Mac en interne. Et qu'Apple a cédé à Microsoft le fait qu'ils allaient leur acheter un basique sur leur Mac, alors qu'ils avaient en interne un basique de meilleure qualité. C'est sur le site de référence, folklore.net. On mettra le lien de ce côté-là. Justement, des histoires encore troubles, je veux dire, sur ces langages. Sur PC, Microsoft était revenu à la charge avec le GW Basic.
Alors le GW Basic,
c'était parce que lui aussi, il y a plus de numéro de ligne et tout ça.
Alors, et le GW Basic, au départ, si. En fait, c'est Microsoft qui reprend son autonomie d'IBM. Mmh. IBM avait donc son basique en ROM, c'était vraiment un basique IBM, et quand tu avais un vrai PC de chez IBM, tu lançais basic.com ou Basica, le Advanced Basic, oui, qui était une version un peu améliorée. Et sauf que ça, c'était spécifique à la ROM de l'IBM original. Et donc, pour pouvoir offrir quelque chose de compatible aux cloneurs, auxquels Microsoft vendait le MS-DOS, ils ont réimplémenté une version autonome qui n'avait plus besoin de cette ROM et qu'ils ont appelé le GW Basic. Personne ne sait trop pourquoi GW, peut-être un des employés de Microsoft, qui lui-même nie vigoureusement en disant que ça voulait juste dire G-Wiz.
George W. George Witten. Basic.
Ouais, non, non.
Non, non, c'est pas ça.
Mais donc Greg Witten, à moins que ce soit Gates and Witten. Bon, c'est pas super clair. Mais c'était donc une réimplémentation de l'IBM, c'est-à-dire que là, Microsoft commençait à avoir son trait habituel de réimplémenter un truc existant déjà populaire, plutôt que d'essayer de créer quelque chose d'intéressant. Ils se sont rendus compte eux aussi qu'il allait falloir faire un peu mieux avec le Quick Basic.
Et bah oui, justement, pourquoi ils ont créé le Quick Basic ? C'était juste parce qu'ils avaient créé un IDE concurrent de la série Turbo de Borland, et qu'ils avaient des langages qui s'appelaient Quick Pascal, Quick C et Quick Blue Screen.
Ouais, il fallait concurrencer les environnements semi-graphiques qui tournaient en mode texte sur les IBM avec des caractères semi-graphiques pour dessiner des pseudo-fenêtres. Alors c'était pauvre par rapport à un Amiga ou à un Mac ou à un Atari.
Bizarrement, il y a eu très peu de programmes sur PC qui étaient écrits en Basic, compilés, enfin qui ont été compilés depuis le Basic. À l'époque, j'en ai pas croisé tant que ça, il y en a quasiment pas eu.
Il y a eu quelques jeux, parce que finalement, pour faire notamment un jeu d'aventure, ça va bien. Et le Quick Basic, le Turbo Basic, étaient eux-mêmes des langages compilés, donc ils produisaient un exécutable, un truc pas facile à reverse engineer et à pirater, c'était viable comme solution. Pas pour des jeux d'action, évidemment.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium depuis la place du code gérée par la compagnie du code pour parler du langage Basic. Alors on m'a parlé du Small Basic qui a existé sur le Palm Pilot.
Le Palm Pilot qui était un des premiers petits organiseurs personnels, écran tactile.
Un PDA où on écrivait en langage.
Il fallait plus ou moins dessiner les lettres, mais d'une manière bien précise, en suivant une certaine convention.
Ah non, le tout premier, tu avais le même que sur le Newton. Tu avais une reconnaissance d'écriture qui était. Tu écrivais des mots en délié, il n'y avait aucun problème. Enfin, fallait bien faire les pleins en montant et
il fallait bien former les lettres.
Voilà, mais c'était assez surprenant. Il y en a qui ont tenté d'écrire en basique dessus ici dans la salle.
Moi, j'ai eu un pilote, mais non, j'ai pas tenté d'écrire en basique. Quand même, c'était douloureux de rentrer des textes un peu longs. Donc, c'était encore plus douloureux, je pense, littéralement, que le clavier à membrane d'un TO7 avec un stylet.
Le visuel basique, est-il encore un basique pour apprendre ou n'a-t-il de basique que le nom ? Alors déjà, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que le visuel basique, hein, parce qu'on n'est plus dans dans le démarrage de la machine, du tout.
Microsoft avait fait le Quick Basic, donc avec son IDE en mode semi-graphique. Et après ça, pour Windows, ils ont fait le Visual Basic, qui là utilisait une vraie interface graphique avec des vraies fenêtres et des vrais pixels. C'était donc le descendant. Ça a donné lieu au Visual Basic for Application, qui devenait un langage de scripting pour pouvoir customiser, automatiser le fonctionnement d'applis comme Word et Excel et compagnie. En ce sens, le langage, c'est toujours pareil, il gagne en complexité, de plus en plus de mots-clés, de plus en plus de bibliothèques. Un langage d'initiation, à mon sens, non, plus vraiment. D'autant plus qu'on peut trouver des langages plus modernes qui sont des langages d'initiation. Il y a des langages aussi... Tu m'as demandé au début... Est-ce que je faisais toujours du basique? Il y a un moment, en fait, il y a d'autres langages qui ont remplacé le basique comme langage à tout faire pour bricoler Rapidos. Il y a, pour certains, ça a été Perl. Pour moi, ça a été Python. Python,
Perl en langage d'initiation, bonne chance.
Non, pas d'initiation, mais comme langage à tout faire.
Mais c'est vrai que Python, oui, c'est, fait vite des trucs avec.
Voilà, parce que Python était salement, aussi conçu pour être éducatif. Et donc, de nos jours, tu as des langages mieux fichus que le Visual Basic comme langage d'apprentissage. Par contre, il existe aussi toujours des basiques modernes qui, eux, sont faits pour être faciles à prendre en main, très colorés, très visuels, ne s'y sentant pas de comprendre tous les concepts de l'ordinateur, donc utilisables par des enfants assez jeunes.
Est-ce qu'on peut trouver facilement un basique à apprendre? Facilement disponible sur Mac ou sur PC.
Il y en a un qui est sympa parce qu'il existe sur pas mal de plateformes, mais pas sur Mac justement, mais qui par contre est justement un descendant de la syntaxe du GFA, c'est le X11 Basic, mais qui existe aussi pour Windows et qui a également été porté sur des petites machines embarquées. Et sur le Mac, donc le Chipmunk Basic est un langage avec une jolie fenêtre aussi colorée syntaxique, avec coloration syntaxique, donc pratique aussi pour faire des petits programmes très simples, très self-contained. Tu as aussi le Basic 256 qui est porté sur à peu près tout. Alors lui, pour le coup, il est très primitif, il est purement textuel. Il n'y a pas d'éditeur pleine page, hein, c'est le pur Basic à numéro de ligne, mais du coup... Il nécessite très peu de choses pour être adapté à un système d'exploitation. Du coup, il est disponible sur n'importe quoi.
Et donc, on a parlé du YaBasic, qui effectivement est disponible sur la plupart, mais même, c'est pas par contre le même IDE par rapport à ce qui a été fait sur PS2.
Mais ça, c'est l'éternel problème. Est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on fait toujours le même IDE, la même interface, les mêmes mots-clés sur toutes les plateformes, quitte à se priver des fonctions qui existent sur certaines plateformes et pas sur toutes? Ou est-ce qu'au contraire, on fait une implémentation qui s'intègre bien à chaque OS et qui du coup est différente sur chaque plateforme?
Tout à fait.
C'est ce qu'avait fait François Lyonnais avec Lamos qui était différent du Stos, alors que le GFA, au contraire, essayait d'être le même avec la même interface graphique qui n'est pas l'interface native pour éditer les programmes.
Est-ce qu'il y a encore une communauté de programmation en basique? Je ne parle pas d'écrire le langage basique, mais pour programmer en basique. Est-ce que y a encore des gens qu'on trouve qui le font et voire qui dialoguent entre eux?
Bah, y a nous déjà. C'est-à-dire qu'à Silicium, de temps en temps, on écrit des petits programmes. Parfois même, on en sort, on fait des petits jeux, etc. Bah, parfois en basique, c'est pratique parce que c'est simple et que c'est facile à partager. Non, il n'y a pas une communauté extrêmement active de nos jours. Tu as des meilleures solutions pour faire des petits programmes ou pour faire des petits jeux, etc. Mais en rétro computing, ça reste une bonne solution.
Est-ce que, à part là, la communauté de vieux de la vieille qui sont là, je ne parle pas d'ailleurs que de nous, hein. Il y a aussi François de la Compagnie du Code qui aussi a été un grand développeur basique en 8 bits comme nous tous, hein, c'est-à-dire chacun essayé. Est-ce qu'il y a un plaisir de revenir vers ce langage encore ou se dire non, finalement c'était trop limité et il y en a marre?
Je suis bien affichu de te dire si c'est une question tout simplement de nostalgie d'enfance ou si c'est une qualité intrinsèque du langage, mais honnêtement, autant un basique à numéro de ligne, c'est pas très facile à relire, l'e-listing. Mais un basique structuré, avec des mots qui finalement font ce qu'ils veulent dire, si tu comprends l'anglais, bien sûr. C'est un langage assez plaisant, assez agréable, finalement assez expressif, parce que, en définitive, avec quelques variables locales, des procédures et des tableaux, tu fais à peu près tout en algorithmique. Donc, finalement, avec un langage qui se décrit en quelques dizaines de commandes, qui s'apprend peut-être en quelques soirées, je trouve que c'est quand même assez sympathique et j'ai pris plaisir à réécrire un petit programme qui correspondait à mon premier devoir de fin de cours du soir d'apprentissage du basique sur donc MO5 du nano réseau. Je l'ai revu en GFA justement quand tu as proposé qu'on parle basique pour cette émission. Il y a 70 lignes. C'est un petit labyrinthe en spirale. Il y a des petits points un peu partout et donc les bordures du labyrinthe qu'il faut éviter. Et il faut diriger son petit vaisseau en ne percutant pas les bords. Et comme ça se déplace assez vite, c'est plus difficile que ça en a l'air. Tu t'es énervé un peu dessus tout à l'heure.
Oh, même pas.
Et donc, c'est un programme qui tient, voilà, en 70 lignes, dans le GFA basique sur Atari ST. J'ai réécrit ça hier soir en 2 heures.
Alors, donc, il y a René, donc, le président de l'association Silicium qui a... Alors, vous avez amené plusieurs bouquins. Je le vois s'exciter depuis tout à l'heure avec ce livre. Donc, si quelqu'un peut en parler, je sais que tu l'as pas encore lu, mais rapidement.
Alors, je l'ai pas encore lu parce que notre cher président René vient de le recevoir. C'est donc une publication tout à fait récente.
Je vous remercie franchement infiniment pour le travail documentaire que vous avez fait quand même pour cette émission. Ça a été du bonheur.
Alors, le livre s'appelle Endless Loop, The History of the Basic Programming Language, par Mark Jones Lorenzo. Et donc, il retrace donc toute la genèse, l'historique. Il parle de technique. Curieusement, il omet la sœur Marie Kenneth Keller. Et donc, on est extrêmement déçus. Du coup, on pense qu'on va le brûler, ce bouquin. Mais je vais quand même le lire d'abord.
Ce bouquin est un apostolat. Il est apocryphe. Non, mais je le regarde comme ça, juste pour voir. Mais en tout cas, merci